إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc lecture de cet épître au sujet des préceptes pré-islamiques abolis par la religion de l'islam. Et on va prendre connaissance dans l'assise d'aujourd'hui d'un certain nombre de préceptes auxquels avaient recours les gens de la Jahiliya afin de rejeter la vérité et de faire fuir les gens de la vérité. Et comme on a dit, il est important pour nous de prendre connaissance de ces préceptes afin de pouvoir s'en écarter et s'en préserver, mais aussi il est important pour nous de prendre connaissance de ces préceptes afin d'observer qui sont ceux qui encore aujourd'hui les mettent en pratique et y ont recours afin d'éloigner les gens de la vérité et de la voie droite. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit « Al-mas'alatu al-tasi'atu wal-khamsun talqibu ahli al-huda wal-sawab » Bissabi'a wal-hashawiyya. Le 59e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, de la période pré-islamique, il y a le fait de surnommer les gens de la bonne voie et de la vérité comme étant des sabi'a et des hashawiyya. Et on va voir l'explication de ces deux termes, incha'Allah ta'ala. Donc il fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya et de leur voie pour repousser les gens de la vérité, de mépriser les gens sur la bonne voie et de leur donner des mauvais surnoms afin de faire fuir les gens de la vérité qu'ils portent et à laquelle ils appellent. Donc comme l'auteur rahimahullah ta'ala l'a mentionné ici, il les appelait par exemple Sabi'a. Et As-Sabi, dans la langue arabe, c'est celui qui sort de la religion. Donc ils appellent les gens de la vérité ceux qui sortent de la religion, ceux qui sortent, qui délaissent la vérité. Et ce car la vérité pour eux, c'est ce qu'ils connaissaient, ce sur quoi ils étaient, comme mécréance et comme égarement. Ainsi, celui qui suit le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il le considère comment? Comme étant un sahabi, quelqu'un qui est sorti de la religion, qui a délaissé la vérité. C'est-à-dire quelqu'un qui a délaissé leurs coutumes, quelqu'un qui a délaissé leurs traditions, quelqu'un qui a délaissé leurs idéologies, et quelqu'un qui a délaissé leurs égarements et la mécréance sur lesquels ils avaient trouvé leurs ancêtres. Également, l'autre mot qu'a mentionné le Cheikh, rahimahullah ta'ala, c'est al-hashawiyya. Et al-hashu, dans la langue arabe, c'est la chose qui n'a pas de bénéfice, qui n'a pas d'intérêt. Donc ils disent au sujet des gens de la vérité qu'ils sont, des hashawiyya, pourquoi? Pour dire qu'ils se soucient et qu'ils se préoccupent de choses qui n'ont aucune importance. Et est-ce que ça c'est présent ou pas aujourd'hui? Cela est présent aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des gens, parmi les gens affiliés à l'islam, qui accuse les gens de la vérité de se préoccuper de choses qui sont sans importance ou alors qui sont d'intérêt secondaire, qui ne sont pas les priorités. Si tu vas lui parler de tawhid, tu vas lui parler de sunnah, du suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va te dire oui, mais cela, ce n'est pas nos priorités. Ça n'a pas un grand intérêt. Tous les musulmans connaissent le tawhid, tous les musulmans connaissent le prophète et ils vont t'appeler à d'autres choses qui font partie de leurs préceptes et de leurs idéologies, afin de t'égarer de la voie droite. Vous avez certainement déjà entendu l'exemple que donnent certaines personnes parmi ceux affiliés à certaines sectes, comme la secte des frères musulmans ou autres. Ils vont dire une comparaison fausse et erronée qui est de comparer l'islam à une orange. Et ils vont te dire, l'islam c'est comme une orange. L'orange, qu'est-ce que tu fais pour la manger? Tu retires la peau et tu manges la pulpe qui est à l'intérieur. Et la peau, qu'est-ce que tu en fais? Tu la jettes à la poubelle. Il te donne cet exemple pour te dire quoi? Ne te préoccupe pas du suivi de la sunna en apparence. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Ces choses, elles sont sans intérêt. Wal'iyadu billah. Il n'y a pas de doute que ceci est une sévère critique de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne convient pas de tenir ce genre de propos. Mais, étant donné qu'il donne cet exemple, on peut leur répondre en leur disant que l'orange, une fois qu'on lui retire sa peau, alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Elle va périmer. Elle va pourrir. Donc, cela te montre que cette peau, en réalité, elle est importante, elle n'est pas sans aucun intérêt comme eux le prétendent en mentionnant cet exemple. Et ils utilisent d'autres comparaisons erronées afin de prétexter que les gens de la sunna, que les salafis, se préoccupent de sujets qui sont d'intérêt secondaire. Il y en a même certains aujourd'hui qui vont reprocher aux gens de la sunna d'enseigner sans cesse les livres de croyance, les livres de l'aqida, l'enseignement du tawhid, la mise en garde contre le shirk. Ils vont te dire, mais non, aujourd'hui, il y a des choses plus importantes. Nous devons nous organiser, créer des organisations pour protéger nos droits, et ainsi de suite. Est-ce par cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté pendant des années à Mecca à appeler les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la base fondamentale de notre religion. Si cette base n'est pas présente, le reste ne sera d'aucune utilité. Donc, si on veut que les musulmans soient honorés, que les droits des musulmans soient préservés, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit revenir à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mettre en pratique sur nos propres personnes. Vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui donner aucun associé dans l'adoration, et l'adorer tel que l'a légiféré son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la base fondamentale de notre religion. Et c'est le sens de la parole par laquelle tu entres en islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Si c'est par cette parole que la personne sort de l'obscurité de la mécréance vers la lumière de la foi, comment prétendre que ceci est une question d'intérêt secondaire ou que ce n'est pas ça la priorité que l'on doit avoir? Wallah al-musta'an. Quoi qu'il en soit, il faisait partie des préceptes des gens de la Jahiliya de donner des surnoms aux gens de la vérité afin de faire fuir les gens du suivi de la vérité. Et comme on a dit, ceci est présent encore aujourd'hui. Que ce soit chez les mécréants, qui vont qualifier les musulmans par exemple de gens arriérés, de gens rétrogrades, de gens radicaux, fondamentalistes, afin de faire passer les musulmans pour des méchants et de faire fuir les gens de l'islam. Mais cela aussi est également présent chez les gens qui sont eux-mêmes affiliés à l'islam. Ils vont qualifier les gens de la vérité, par exemple, de wahhabites, faisant référence à cet imam, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, celui qui a réformé l'appel au tawhid, qui n'est pas venu avec quelque chose différent de ce à quoi a appelé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils vont qualifier les gens qui étudient ses livres, qui suivent son prêche, d'être des wahhabites. Et plus récemment, on a pu entendre des gens qualifier les gens de la sunna, par exemple, d'être des jamiya ou des madakhila, en faisant référence à deux grands savants parmi les savants de la communauté, le cheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, et le cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. Et ceci est venu notamment des différentes branches s'affiliant à la secte des frères musulmans, qui ont dénigré ces deux savants lorsque ceux-ci ont dévoilé leurs ruses, ont dévoilé leurs égarements, ont réfuté les choses fausses qu'ils ont essayé d'instaurer dans la religion, et ils ont dévoilé également les ruses et les complots qu'ils ont menés contre les gens de l'islam. Donc ils ont qualifié ceux qui les suivaient d'être des jamiya. Si tu appelles à l'obéissance au gouverneur, tu es un jami ou un madkhali. Alors que l'obéissance au gouverneur, cela fait partie des fondements de notre religion. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, comme on l'a déjà mentionné dans un de nos cours, lorsqu'on a vu que cela faisait partie des fondements que l'islam a instaurés en abolissant ce qui était présent chez les gens de la Jahiliya qui considéraient l'obéissance au gouverneur comme étant une forme d'avilissement. Donc l'islam a aboli cela. C'est un ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant cela, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné d'obéir aux détenteurs de l'autorité. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont qualifier ces gens d'être des jamiya, des madakhila. Ou pire encore, ce qu'ils prononcent comme parole ignoble, comme lorsqu'ils disent les adorateurs des gouverneurs, wal'iyadu billah. Et tout cela afin de faire fuir les gens du suivi de la vérité. Et plus récemment, il y a ce mot que l'on entend ici et là, et prononcé par certaines personnes afin de qualifier les salafis, et qui est le mot sa'afiqa. Et ils utilisent ce mot afin de faire fuir les gens du suivi de la vérité à laquelle les mashayikh de la sunna, les étudiants en sciences et les prédicateurs appellent. Et comme on a dit, ils ont hérité cela en réalité des gens de la jahiliya. Telle était leur méthode. Et si tu médites sur tout cela, tout ce que l'on vient de dire, tu sauras qu'en réalité, cela ne nuit en aucun cas aux gens de la vérité. Certes, cela peut te porter atteinte, cela peut te chagriner, de te voir accusé d'être un adorateur du gouverneur, ou un madkhali, ou un jami, ou de faire partie des sa'afiqa, ou autre, parmi les mots qu'ils emploient. Mais cela ne te cause aucune nuisance en réalité. Comme on l'a vu dans un cours précédent, « لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى ». Ils ne vous nuiront pas, mais seulement ils vous portent atteinte. Ce sont des mots que tu entends, mais qui ne te causent en réalité aucune nuisance. Et ceux qui les emploient et qui dénigrent les gens de la vérité, ils ne se nuisent en réalité qu'à eux-mêmes. Car comme on l'a dit, c'est eux qui vont rendre des comptes de leurs paroles. Cela ne cause pas de tort en réalité. Mais c'est eux qui auront à rendre des comptes de leurs paroles au jour de la résurrection. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-mas'alatan as-sittoun wal-hadiyatu as-sittoun iftira'u al-kadhibi 'ala Allah wa at-takdhibu bil-haqq. » Il dit ensuite, le 60e et le 61e précepte, ce sont le fait de mentir contre Allah et de traiter la vérité de mensonge. Ceci fait partie des préceptes des gens de la Jahiliyyah. De mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Ou alors de traiter la vérité de mensonge. Comme on l'a vu lorsqu'on en a parlé, du fait qu'il faisait le tawaf autour de la Kaaba sans vêtements. Qu'est-ce qu'il disait à ce sujet? Wajadna alayha aba'ana, wallahu amarana. Nous avons trouvé sur cela nos ancêtres, et Allah nous l'a ordonné. Ceci est un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, comme on a vu, il n'ordonne pas la turpitude. Ils ont donc menti contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un grave péché. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah? Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ils disent des mensonges contre Allah en connaissance de cause. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, Seuls ceux qui ne croient pas au signe d'Allah forgent le mensonge, et ce sont eux les menteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, Et ne dites pas ces mensonges prononcés avec vos langues. Ceci est licite et cela est illicite pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Donc, ceci sont des menaces sévères contre celui qui ment contre Allah subhanahu wa ta'ala, qui ment sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela également le fait de forger des mensonges contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en lui attribuant des paroles qu'il n'a pas dites. Ceci fait partie du mensonge. Qu'une personne, elle invente un hadith, ou elle attribue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une parole qu'il n'a pas dite. Il y a des gens, ils ont dû laisser aller sur cela. Il veut te dire que quelque chose n'est pas bien, il va te dire, oui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit ceci et cela. Donc en réalité, ce n'est même pas un hadith. Également, il y a des personnes qui propagent des hadiths sans connaître et sans vérifier l'authenticité de ces hadiths. Ils font alors partie du nombre des menteurs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala, Man haddatha anni bi hadith wa huwa yara annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin. Celui qui rapporte de moi un hadith alors qu'il voit que c'est un mensonge, il s'en doute. Il pense que ce hadith n'est pas vrai. Alors c'est un des menteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Rahimahum Allah ta'ala, Man kadaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment volontairement sur moi, alors qu'il prépare sa place en enfer. Ceci est une menace sévère. Cela nous montre que le fait de mentir sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une chose insignifiante, mais c'est une chose très grave. C'est un grave péché. Donc le fait de mentir contre Allah subhanahu wa ta'ala, de mentir sur son messager sallallahu alayhi wa sallam, cela fait partie des préceptes des gens de la Jahiliyyah. Donc le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre garde à cela. Il doit prendre garde à ne pas mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas mentir sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à ne pas mentir au sujet de la religion. Certains vont dire, Alhamdoulilah, moi je ne mens pas sur la religion, je ne mens pas sur Allah, je n'invente pas des hadiths. D'accord. Mais est-ce que tu fais attention à tout ce que tu transmets sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu fais attention à tous les messages que tu transmets sur WhatsApp ou autre? Est-ce que tu vérifies toutes les informations que tu transmets? Est-ce que tu prends garde à cela? Malheureusement, le laxisme, il est présent dans ce domaine. Beaucoup de gens sont négligents à ce sujet. Il reçoit un rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Transmettez, vous serez récompensé. Ne sais même pas si ce hadith est un hadith authentique. Il faut que tu vérifies la source. Au minimum, que tu fasses l'effort de ne transmettre que ce qui te parvient de personnes de confiance si tu n'as pas les aptitudes pour vérifier. Tu transmets des choses qui te parviennent d'étudiants en sciences, de personnes qui ont fait cet effort de vérification avant cela. Mais tu ne transmets pas de personne qui te vient de n'importe qui. Le premier venu, il t'envoie un hadith. Masha'Allah, ce hadith, il est bénéfique et je transmets. Je ne sais même pas s'il est authentique. Je vais te dire, oui, mais il y avait écrit Al-Bukhari et Muslim. Oui, mais moi, j'ai regardé Al-Bukhari et Muslim, je n'ai pas trouvé ce hadith. Aujourd'hui, c'est facile, une personne, elle écrit un hadith, elle met en dessous Al-Bukhari et Muslim. Donc, si toi, tu n'as pas les aptitudes pour aller vérifier dans l'authentique d'Al-Bukhari, dans l'authentique d'Al-Muslim, dans les livres de hadith, est-ce que ce hadith est authentique? Au moins, fais l'effort, au minimum, de ne transmettre que ce qui t'est parvenu d'une source sûre. Et quand je dis une source sûre, ce n'est pas tout site affilié à la sunna ou tout site affilié à l'islam. Quand je dis source sûre, c'est un site ou une personne que tu as la ferme conviction qu'ils ont les aptitudes pour pouvoir vérifier ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et c'est comme cela que le musulman doit se comporter. Car si tu transmets tout ce que tu reçois, tu risques de tomber dans cette menace du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, transmettre un hadith qui est faux. Il attribue au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas prendre cela à la légère. Et il en est de même concernant les avis juridiques, al-fatawa. Faut prendre garde à ce que tu transmets. Est-ce qu'elle est conforme au texte du Coran et de la Sunna? Ceci, ce sont des choses sur lesquelles on doit se corriger. Et ce, afin de ne pas tomber dans ce grave péché qui est de mentir sur la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car si tu transmets une fatwa qui est une fatwa fausse, une fatwa erronée, un cheikh qui s'est trompé, peut-être même si ça se trouve, il a été corrigé. Mais toi, tu n'as pas connaissance qu'il a été corrigé. Cette fatwa, elle te parvient, c'est une ancienne fatwa. Et toi, tu la transmets. Elle se propage parmi les gens par ta cause. C'est toi qui es responsable de cela. Donc, il faut prendre garde à cela et se corriger à ce sujet et ne pas propager tout ce que l'on reçoit. Ce n'est pas parce qu'une parole te paraît belle qu'elle est forcément authentique. Ce n'est pas parce qu'une parole te touche qu'elle est forcément bonne à propager parmi les gens. Mais tu dois vérifier quelles sont tes sources et ne pas transmettre ce qui te parvient de toute personne, et notamment ce que l'on a mentionné à plusieurs reprises, le fait de transmettre des inconnus. Une personne dont tu ne connais ni l'identité, ni les aptitudes, ni la voie qu'elle suit, ni rien de cela, il ne t'est pas permis de transmettre ce qui te parvient de cette personne. Même si ce sont des belles paroles, ne transmets pas de lui. C'est un inconnu. Le simple fait qu'il soit inconnu, cela te suffit pour le délaisser et ne pas transmettre ce qui te parvient de lui. Donc, comme on a dit, il faut se corriger à ce sujet afin de ne pas tomber dans ce grave péché qui est de mentir sur la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et s'assimiler en cela aux gens de la jahiliya. Car ceci a causé beaucoup de tort aux prêches de l'islam et à la da'wah. Tous ces mensonges qui se propagent sur la religion, ces informations erronées qui sont diffusées, et ainsi de suite. Donc il est obligatoire pour nous de prendre garde à cela et de ne pas transmettre toute fatwa, tout hadith, toute parole qui nous parvient, mais de vérifier les sources, de vérifier si cela est authentique et de ne pas s'empresser. Il est préférable pour toi que tu te prives de la récompense de la transmission d'une parole vraie en prenant tes précautions plutôt que tu aies dû laisser aller et que tu transmettes toute parole au risque de transmettre des paroles qui sont fausses. Et donc le précepte que le cheikh rahimahullah ta'ala il a mentionné avec celui-ci, c'est le fait de traiter la vérité de mensonge. Ceci également fait partie des préceptes de la jahiliya. Ils inventaient eux des mensonges contre Allah, subhanahu wa ta'ala, et par contre la vérité, ils la traitaient de mensonge. Ce qui est confirmé venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala, venant de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont te dire, non, ceci est un mensonge, ceci n'est pas vrai. Ce hadith, il n'est pas authentique. Il va déclarer faible des hadiths qui sont authentiques, dont l'authenticité est confirmée, sans revenir pour cela aux règles des savants du hadith, mais seulement avec sa raison, avec ses passions. Ce hadith ne correspond pas avec ses passions. Non, il n'est pas authentique. Ce verset ne correspond pas à ses passions. Non, ce n'est pas comme cela qu'il faut le comprendre. Et ainsi de suite, telle est leur méthode. Ils rejettent la vérité en la traitant de mensonge. Et ceci n'est pas une chose insignifiante également. Mais c'est un grave péché. Allah subhanahu wa ta'ala les a d'ailleurs liés les deux lorsqu'il a dit: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ. Et qui est plus injuste que celui qui ment contre Allah et qui traite la vérité de mensonge quand elle lui vient? Quoi, la traite de mensonge, comme on a dit, elle ne correspond pas à ses désirs, ne correspond pas à ses passions. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il la rejette et il la traite de mensonge. Et telle est la voie des gens des passions et des gens de l'innovation qui ont suivi en cela les gens de la Jahiliyyah. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit: Al-mas'alatu thaniyatu wa sittun. Qawnuhum, idha ghulibu bil-hujja, faza'u ila shakwa lil-muluk. Kama qalu, atadharu Musa wa qawmahu li yufsidu fil-ard. Le 62e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliyyah, c'est le fait que lorsqu'ils étaient vaincus par l'épreuve, alors ils avaient recours aux plaintes auprès des rois. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit au sujet des notables du peuple de Pharaon, qui ont dit: Laisseras-tu Moussa et son peuple semer la corruption sur terre? Ceci fait partie des préceptes des gens de la Jahiliyyah pour rejeter la vérité et empêcher les gens de la suivre. S'ils sont vaincus par l'épreuve, alors ils vont se plaindre auprès des autorités, auprès des rois, auprès des gouverneurs. Une fois que la preuve leur est établie, que la vérité leur est parvenue, qu'ils n'ont plus aucun argument pour faire face à la vérité, alors ils ont recours à la force afin d'empêcher la vérité de se propager. Comme Pharaon l'a fait avec Moussa alayhi salam. Il l'a menacé et lui a dit: La in ittakhasta ilahan ghayri, la aj'alannaka min al-masjunin. Si tu prends une autre divinité que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. Étant donné qu'il n'avait pas d'argument pour rejeter ce avec quoi était venu le messager d'Allah, Moussa alayhi salam, alors il a eu recours à la force. Je te mettrai parmi les prisonniers. Telle est la voix des gens perdants en réalité. Et de la même manière ont fait les notables parmi les gens du peuple de Pharaon. Lorsque Moussa alayhi salam a eu le dessus sur eux, le jour de leur grande fête, lorsque Pharaon avait réuni plein de magiciens, plein de sorciers. Pourquoi? Afin d'essayer de vaincre Moussa alayhi salam. Car il accusait Moussa alayhi salam d'être un sorcier. Alors il a réuni plein de sorciers. Il a demandé à Moussa alayhi salam de choisir le moment du rendez-vous, afin de confronter Moussa alayhi salam avec les sorciers. Et ce, afin de faire croire aux gens qu'il avait de quoi faire face aux miracles avec lesquels était venu Moussa alayhi salam. Donc Moussa alayhi salam, il a choisi le jour de leur grande fête, afin qu'il y ait un maximum de personnes, que tous les gens viennent et voient cela. Et lorsqu'est venu le moment du rendez-vous, que les gens se sont réunis afin de voir qu'est-ce qui allait se produire. Les magiciens ont alors jeté ce qu'ils avaient comme magie. Ils ont ensorcelé les yeux des gens. Et ils ont voulu en cela affronter Moussa alayhi salam, qui lui, Allah subhanahu wa ta'ala, lui avait donné un miracle, qui était que son bâton se transformait en serpent. Ils sont donc venus avec un sort immense, à tel point que Moussa alayhi salam, cela l'a effrayé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. Moussa ressentit une peur en lui-même. Quelle était sa peur? Il a eu peur qu'il trompe les gens, que les gens soient leurrés par cela. Mais en réalité, il avait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il savait qu'il avait la vérité avec lui. Il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait le secourir. Mais il a eu peur que leur sort trompe les gens, car ils sont venus avec une magie puissante, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet: Waja'u bi sihrin 'azim. Ils vinrent avec une magie puissante, une magie immense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a ensuite ordonné à Moussa alayhi salam de jeter son bâton. Il l'a alors jeté et il s'est transformé en un serpent immense qui a avalé tout ce que les sorciers avaient jeté. À tel point qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur que le serpent les atteigne. Ils ont donc demandé à Moussa alayhi salam de le retenir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ainsi la vérité se manifesta et ce qu'ils firent fut vain. Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés. Et les magiciens, les sorciers, se jetèrent prosternés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit: Nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moussa et Haroun. Car ils ont su avec certitude que ce avec quoi était venu Moussa alayhi salam n'était pas un sort, que cela n'était pas de la magie ou de la sorcellerie. Et lorsque les sorciers ont cru en Moussa alayhi salam, qu'ils se sont prosternés pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors Pharaon les a menacés de les tuer et de les crucifier. Et il a tué ces sorciers qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sont repentis. Alors à ce moment-là, les notables du peuple de Pharaon, ils se sont tournés vers lui et lui ont dit: "Atadharu Moussa wa qawmahu li yufsidu fil ard wa yadharaka wa alihatak." Laisses-tu Moussa et son peuple semer la corruption sur terre et te délaisser toi et tes divinités? Alors Pharaon il dit: "Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun." Il dit: "Nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes, et nous aurons le dessus sur eux et nous les dominerons." Quelle fut la réaction de Moussa alayhi salam face à cela? Comment Moussa alayhi salam a réagi face à cette menace? Qu'est-ce qu'il a ordonné à son peuple? Écoutez cette recommandation immense qui nous est très utile en notre époque où les épreuves sont nombreuses, où la domination des ennemis, elle est présente et réelle. Écoutez la recommandation de Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: "Qala Moussa li qawmihi ista'inu billahi wasbiru." Moussa dit à son peuple: "Implorez l'aide d'Allah et soyez patient." Soyez patient face à cette épreuve. Demandez l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala car tout est entre ses mains. Ensuite il dit: "Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi." La terre appartient à Allah et il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Et la bonne fin sera pour les pieux. La bonne fin, elle sera pour les pieux. Même si tu es éprouvé dans ce bas monde, que tu dois subir certaines épreuves et certaines difficultés, tu dois rester pieux, rester ferme sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et te rappeler que la bonne fin, elle est pour les pieux. Et que ces épreuves, ce sera une cause d'élévation en degré dans l'au-delà par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu es patient et restes ferme sur ta religion. Ce qu'on tire de cela, c'est que lorsqu'ils ont été vaincus par l'épreuve, que la vérité est devenue éclatante à leurs yeux et qu'ils n'avaient plus de doute à ce sujet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu recours à la force. Ils se sont plaints à Pharaon afin de dominer la vérité, de dominer cette vérité avec laquelle était venu Moussa alayhi salam. Et telle est la situation des gens du faux, et ce jusqu'à nos jours. Parmi ceux qui ont hérité cela, des gens de la Jahiliya, lorsqu'ils vont être dominés par l'épreuve, ils vont essayer d'avoir recours à la force pour te faire taire, quitte à aller se plaindre et mentir à ton sujet auprès des autorités. Car leur seul objectif, c'est de rejeter la vérité à laquelle tu appelles. Ils veulent juste te faire taire. Donc ils ne vont pas hésiter à avoir recours à toute forme de ruse et de complot pour cela. Toutefois, je tiens à souligner ici une chose très importante qui peut paraître confuse pour certaines personnes. Et c'est le fait que ceci ne veut pas dire qu'il n'est pas permis pour le musulman, s'il subit une injustice, que quelqu'un lui cause du tort, d'aller réclamer son droit auprès des autorités compétentes en terre d'islam, où les règles de la charia sont appliquées. Si quelqu'un ment à ton sujet, diffame sur ton honneur, alors il est permis pour toi d'aller auprès du tribunal islamique compétent et de réclamer ton droit. Ceci ne rentre pas dans ce précepte qui fait partie des préceptes des gens de la jahiliya. Ceci est ce qu'a légiféré Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des lois. Il nous a accordé des droits, il nous a donné des devoirs. Et nous devons les respecter. Donc celui qui enfreint les droits d'un musulman, il est permis à ce musulman d'aller réclamer son droit et de mettre fin à l'injustice. Et ceci n'étant rien lié à ce précepte que l'on vient de mentionner. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala, il a mentionné un certain nombre de préceptes qui sont assez semblables. Il a dit rahimahullah: "Al-masa'il al-thalithatu wal-rabi'atu wal-khamisatu والسادسه والسابعه والستون رميهم اهل الحق بالصفات الذميمه رميهم اياهم بالفساد في الارض كما في الايه وبانتقاص دين الملك والهته وتبديل الدين." Il dit donc les préceptes 63, 64, 65, 66 et 67, c'est le fait de traiter et de qualifier les gens de la vérité par des caractéristiques blâmables, de les accuser de semer la corruption sur terre, comme on l'a vu dans le verset, de les accuser de mépriser la religion du roi et ses divinités, et les accuser de vouloir changer la religion. Donc comme vous voyez, ce sont des préceptes qui se rejoignent tous sur le fait d'accuser les gens de la vérité de choses fausses, afin de faire fuir les gens de la vérité à laquelle ils appellent. Et ceci fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya. Ils ne se contentent pas de se plaindre auprès des autorités, auprès de ceux qui ont la force, mais ils vont dénigrer les gens de la vérité, les qualifier par des caractéristiques blâmables, comme on l'a vu en leur donnant des surnoms par exemple. Ou alors, ils vont les accuser de vouloir semer la corruption sur terre. Comme les notables du peuple de Pharaon ont dit: Atadharu Moussa wa qawmahu liyufsidu fil ard. Laisseras-tu Moussa et son peuple semer la corruption sur terre? Ils en ont qualifié la réforme de corruption sur terre. Et en réalité, c'est l'inverse. La foi et le tawhid, l'appel à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, ce à quoi appelait Moussa alayhi salam, ceci est la réforme sur terre. Et la corruption sur terre, c'est quoi? C'est la mécréance, c'est les péchés, la perversion, l'injustice, la transgression, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie de la corruption sur terre. Donc ce sur quoi était Moussa alayhi salam, c'était la réforme. Et ce sur quoi était Pharaon, ainsi que son peuple, c'était la corruption. Mais ils ont inversé les choses. Ils ont qualifié la réforme comme étant la corruption. Et telle est l'habitude des mécréants, des polythéistes, ainsi que des hypocrites. Ils vont appeler les réformateurs parmi les prédicateurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont appeler les croyants, les monothéistes, qui appellent à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ils vont les appeler corrupteurs sur terre. Ceux-là veulent semer la corruption. Quelle est cette corruption? Adorer Allah et vouloir lui un culte exclusif. Voilà ce qu'ils qualifient de corruption. Et ceci est une chose qui est perpétuelle chez les gens. Les gens de la mécréance, les gens injustes, les transgresseurs, ils qualifient les réformateurs d'être des corrupteurs. Et ça existe depuis les premières générations, comme on le voit depuis l'époque du peuple de Pharaon. Et ça, en réalité, cela ne nuit en rien aux gens de la vérité, aux gens de la foi. Cela ne nuit en rien les réformateurs, même si on leur donne des mauvais surnoms, même si on les dénigre, qu'on les accuse de semer la corruption, de semer la discorde. Si cela sont des accusations fausses et infondées, alors cela ne nous nuit en rien. Walillahil hamd. Combien de prédicateurs et de réformateurs, parmi les savants, les imams qui nous ont précédés, ont été dénigrés et qualifiés par des surnoms les plus odieux. Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, Ibn Taymiyyah, il a été grandement dénigré. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, de son vivant, il était dénigré. Certains l'accusaient d'être un khariji, d'autres l'accusaient de vouloir changer la religion des gens, d'être venu avec une nouvelle religion, et l'accusaient de taxer de mécréance les musulmans, et d'autres accusations encore. Et tout ceci est présent dans leurs livres, et c'est même présent encore aujourd'hui, sur les sites internet ou les livres, des gens de l'innovation et de l'égarement, qui veulent essayer de détourner les gens de la vérité et de l'appel au tawhid. Telle était leur position et leur comportement avec les réformateurs. Et comme on l'a dit, ceci est présent encore aujourd'hui avec nombre de gens de science. Comme on l'a dit au sujet de Sheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala. Encore aujourd'hui au sujet de Sheikh Rabi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Les gens les accusent de choses mensongères. Ils les dénigrent, les qualifient de corrupteurs sur terre, d'adorateurs des gouverneurs, ou autre chose encore. Tout ceci afin de détourner les gens de la vérité à laquelle ils appellent. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné aussi une chose importante, qui est le fait d'accuser les gens de la vérité de mépriser la religion du roi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset, وَيَذَرَكْ وَآلِهَتَكْ, et qu'il te délaisse, toi et tes divinités. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala au sujet de Pharaon qui a dit, إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ. J'ai peur qu'il change votre religion. C'est la parole de Pharaon au sujet de Moussa. Donc, il faisait partie des habitudes des gens de la Jahiliya d'essayer de semer la discorde et de remonter les autorités et les gens du pouvoir contre les croyants et les prédicateurs à Allah subhanahu wa ta'ala, en les accusant de vouloir semer la corruption, en les accusant de vouloir porter atteinte au pouvoir du gouverneur. Et ceci est présent aujourd'hui. N'y a-t-il pas des gens aujourd'hui qui ont tenté de semer la discorde et de causer du tort à des meshaïchs, à des étudiants, à des prédicateurs, en les accusant de vouloir nuire aux autorités de tel ou tel pays, en ayant des assises secrètes, des assises dans lesquelles ils comploteraient contre le gouverneur. Pourquoi ils ont fait cela? Ils ont fait cela suivant les pas des gens de la Jahiliya. Car ils n'ont pas d'argument en réalité pour faire face à la vérité. Ils ont emprunté une voie fausse et erronée, une voie contraire à la voie des salafs, dans le dénigrement des gens de la sunna, dans le rabaissement et le mépris des gens de la sunna. Alors comme ils n'avaient pas d'argument, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont accrochés à peut-être certains mots qui ont été prononcés, mais qui en réalité ne signifiaient pas
ce qu'ils ont voulu faire croire aux gens, en accusant les gens de la Sunna. Et à leur tête, le grand savant et l'éminent cheikh, Rabi ibn Hadi al-Madkhali, d'avoir des assises secrètes avec ses frères parmi les savants comme le cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, ou le cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala, dans lesquels ils comploteraient afin de semer la discorde et de semer les troubles dans les pays musulmans, wal'iyadu billah. Et ça, ils l'ont tiré d'où en réalité? Comme on l'a dit, ils ont tiré cela des gens de la Jahiliya, ils les ont suivis dans cela, dans cette méthode, dans cette manière d'agir. Mais cette ambiguïté, qui l'a propagée avant eux? Cette ambiguïté avant eux, elle a été propagée par les frères musulmans, et notamment par la chaîne télévisée Al Jazeera. Ceux qui suivent l'actualité du monde musulman, ils savent que les frères musulmans, ils ont fait de grandes campagnes pour dénigrer les savants de l'islam, les savants de la salafia, et notamment le Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Et d'où le surnom Al-Madakhila, pour désigner les salafis. Car ils savent que cet imam, ce grand savant, lorsqu'il fait une fatwa, qu'il prononce un jugement, ce jugement est suivi par de nombreuses personnes dans le monde musulman. Car c'est un imam, c'est un grand savant. Il parle avec science, se conformant au texte du Coran et de la Sunna. Nahsabuhu kadhalik wallahu hasibu. Donc les frères musulmans, ils ont mené des campagnes de dénigrement contre ce cheikh et contre les gens de la Sunna en les affiliant à ce cheikh. Et aujourd'hui, des gens affiliés à la salafia sont venus et ont repris le flambeau de cette ambiguïté et l'ont propagé parmi les gens. Le Cheikh Rabi' a des assises secrètes, ses élèves ont des assises secrètes, et tout cela dans le but de semer les troubles dans les pays musulmans. Wallahu al-musta'an. Ceci fait partie des injustices et des transgressions commises par ces prédicateurs au mal et ces gens appelant au faux parmi leurs suiveurs ainsi que leurs leaders. Wallahu al-musta'an. Donc quoi qu'il en soit, on voit que ceci fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya, d'essayer de semer la discorde entre les prédicateurs et les réformateurs, les gens qui appellent à la vérité, et les autorités et les gens du pouvoir. Et ce, afin d'éloigner les gens du suivi de la vérité, et d'éloigner les gens de l'acceptation de la vérité, avec pour but de ternir l'image des gens de la vérité et de ceux qui appellent à la voie droite, la voie du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Le dernier point qu'il a mentionné ici, c'est le fait d'accuser de changer la religion. Comme on l'a vu, Pharaon, il a dit au sujet de Moussa, « Inni akhafu an yubaddila dinakum, wa an yudhira fil ardi al-fasad. » Je crains qu'il change votre religion et qu'il fasse apparaître la corruption sur terre. Ceci est présent aujourd'hui. Ceux qui disent que les wahhabites sont venus avec une nouvelle religion. Donc pour eux, vous un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'écarter de toute forme de polythéisme, c'est une nouvelle religion. Le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il est venu avec un prêche et un appel conforme à l'appel des prophètes et des messagers, alayhi salatu wa salam, qui est l'appel à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'adorer seul en dehors de tout autre que lui, et à délaisser toute forme de polythéisme. Et eux, pour dénigrer son appel, et pour faire fuir les gens de son appel, ils ont dit « Attention, il est venu avec une nouvelle religion. Il veut vous faire délaisser la religion de vos ancêtres. » Et d'autres choses encore qu'ils utilisent pour détourner les gens du suivi de la vérité. Donc ceci, ce sont des choses sur lesquelles étaient les gens de la Jahiliya. Ce sont des choses sur lesquelles étaient Pharaon, des paroles qu'il a prononcées au sujet de Moussa alayhi salam, afin d'empêcher les gens de suivre l'appel de Moussa. Et il s'est présenté comme étant un bon conseiller. « Attention, il veut changer votre religion. » Prenez garde à lui, alors que Moussa, en réalité, c'était un réformateur, il était envoyé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est venu avec l'appel de la vérité. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a dit, « Al-mas'alatu thaminatu wa sittun, da'wahumul amala bima indahum min al-haqqi, ka qawlihi nu'minu bima unzila alayna, ma'a tarkihim iyyah. » Le 68e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait qu'ils prétendent mettre en pratique la vérité qui est avec eux, alors qu'ils la délaissent. Comme il est mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Nu'minu bima unzila alayna » Nous croyons en ce qui a été descendu sur nous. Donc ce précepte, en réalité, on en a déjà parlé lorsqu'on a vu le 29e précepte. Car ils sont relativement proches. Le 29e précepte, c'était le fait de ne pas mettre en pratique ce qu'ils prétendent suivre. Et ici, c'est le fait de prétendre mettre en pratique ce qu'ils détiennent comme vérité alors qu'ils la délaissent. Et ceci était la prétention des Juifs. On a vu que les Juifs, ils prétendaient suivre la vérité qu'ils détenaient. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. Lorsqu'on leur disait,
Croyez en ce qu'Allah a révélé? Il disait, nous croyons en ce qui a été descendu sur nous. C'est-à-dire, nous croyons seulement en ce avec quoi sont venus nos prophètes et nos messagers parmi les enfants d'Israël. Alors qu'en réalité, ce avec quoi est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas contraire à ce avec quoi est venu leur messager. Mais la base du message, c'est la même. Et le message provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux, ils ont dit cela. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. Et ils ont mécru en ce qui est venu après. C'est-à-dire, ils ont mécru en ce qui a été révélé à Isa alayhi salam, et ils ont mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. Alors que c'est la vérité venant confirmer ce qui est avec eux. Ce avec quoi sont venus Isa et Muhammad alayhi salatu wa salam. Cela était conforme à ce avec quoi étaient venus les prophètes et les messagers alayhi salatu wa salam avant eux. Donc pourquoi le rejeter? S'ils étaient véridiques, ils l'auraient accepté et ne l'auraient pas rejeté. Et on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a réfuté leur allégation en leur disant « قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » Dis, ô Muhammad, alors pourquoi tuez-vous les prophètes d'Allah avant cela, si vous êtes croyants? Si vous croyez en vos prophètes, si vous croyez en vos messagers, alors pourquoi tuez-vous les prophètes d'Allah alayhi salatu wa salam? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les a réfutés de deux manières et sur deux points. Le premier, c'est le fait que ce avec quoi est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas contraire à ce avec quoi est venu Moussa alayhi salam. En effet, ils sont tous deux venus pour appeler les gens à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à ne lui donner aucun associé dans l'adoration. Donc le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu confirmer le message de Moussa alayhi salam. La deuxième chose, c'est que en réalité, ils n'étaient pas véridiques dans leurs prétentions. Car s'ils étaient véridiques, ils n'auraient pas tué les prophètes qui leur avaient été envoyés. D'autant plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait pris de l'engagement de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il serait envoyé. Donc ce qui les a menés à cela, comme on a vu auparavant, il y a l'orgueil, mais il y a également le fanatisme. C'est-à-dire le fanatisme blâmable et le fait de rester sur ce quoi ils étaient. Et de la même manière, agissent aujourd'hui toute personne touchée par ce fanatisme répréhensible. Comme une personne qui dit « Moi, je ne mets en pratique et je n'œuvre que selon ce qui est venu dans mon madhhab, ce qui est venu dans mon école. Moi, je ne suis que mon imam. Moi, je ne suis que tel savant. Moi, je ne suis que tel cheikh. » Et ainsi de suite. Tout ceci fait partie du fanatisme blâmable qui est répréhensible et qui n'est pas permis dans notre religion. Mais l'obligation, comme on ne cesse de le dire, pour le musulman, c'est de suivre la vérité, de revenir au texte du Coran et de la Sunna et d'accepter tout ce qui est conforme à ces textes. Que cela vienne de ton imam, que cela vienne de ton cheikh, que cela vienne de ton enseignant ou que cela vienne d'une autre personne, il est obligatoire pour toi de l'accepter à partir du moment où cela est conforme à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna et que cela est conforme à la voix des pieux prédécesseurs. Rahimahumullah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. On a été un peu plus long que d'habitude, mais on continuera la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous éloigner et à nous préserver de ces préceptes qui font partie des préceptes des gens de la jahiliya. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا